Attends, j'appuie là.
Si tu veux. Appuie plutôt là.
On va rencontrer des filles à Utopie Sonore.
Ouais, on va rencontrer des filles. C'est quoi le projet?
Ben, on pourrait peut-être les faire parler de leur histoire d'amour. Ouais. Des histoires d'amour de filles. Des histoires simples.
Ouais, simples, je suis pas sûre. En tout cas, elles existent, ça, c'est sûr. Ouais.
Ouais, mais quand elles commencent, elles sont simples comme toutes les autres histoires.
Oui.
Après, la suite, c'est compliqué. Mais...
Comme toutes les autres histoires.
Comme toutes les autres histoires. Mais si on parle... Tu vois, des premiers regards, de la montée du désir.
Ah, salut. Oh, wow.
Wow. Oh, rappelle-toi la première fois qu'on s'est rencontrés.
J'avais 18 ans, 18-19 ans, je suis née en 85. Alors le lieu, moi je travaillais dans un hôtel de nuit dans l'Est parisien. Je faisais des gardes de nuit. On faisait un shift, je faisais un shift 23h, 8h du matin. Et en binôme, avec une fille qui était plus âgée que moi, qui devait avoir genre 26, 27 ans, qui avait trop la classe, elle était assez impressionnante. Elle était très grande, hyper élancée, elle parlait fort, elle avait une coupe courte, un peu de lesbienne des années 2000. Il y avait une coupe de cheveux très spécifique avec une mèche comme ça sur le front, de côté, et puis les cheveux très courts. Mais cette mèche devant était très importante. Cheveux décolorés avec petites racines noires. Et on s'est bien entendu très rapidement. Il y a eu une complicité très forte et beaucoup de rigolades très vite. Et comme on se retrouve aussi dans ces ambiances nocturnes, bah ça pousse aussi à se raconter beaucoup et à veiller. Et du coup, on veillait beaucoup ensemble. Et moi, à la base, j'avais pas envie de ce travail. Et puis, au fur et à mesure, j'étais hyper excitée d'y aller tous les soirs. Et j'étais trop contente d'avoir mon petit chiffre de 23h. De plus en plus, j'attendais ça avec impatience, alors que... Bah, c'est juste du travail de nuit mal payé, un peu nul à la base. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un enthousiasme de plus en plus fort pour s'éveiller, parce qu'il y avait Charlie. Et du coup, il y a eu ce... Je crois que ça a duré des mois de progression, enfin tout l'été, de progression... juste à se rendre compte aussi, à réaliser à quel point j'étais attachée à cette personne. Et je commençais à avoir, des trucs physiques aussi, en fait, où t'as le souffle un peu coupé, des fois tu bégayes, t'as les pupilles dilatées. Et moi, j'étais ado. Et malgré le fait que j'étais... assez entourée et consciente qu'on pouvait aimer une fille. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et il y a eu ce petit temps de réalisation de « Ah ben, en fait, c'est ce qui m'arrive. » Enfin, je commence un peu à tomber amoureuse. Mais j'étais assez impressionnée parce que Charlie, elle était un peu plus âgée. Et des fois, elle m'appelait chaton. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être un chaton. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu de coup de foudre ou de choc ou de contexte de fête. Il y a eu ce truc genre petite pierre par petite pierre et avec une timidité, une délicatesse. Mais je me souviens que je lui avais écrit une lettre et après qu'elle m'avait écrit une lettre. Et j'étais trop contente qu'elle m'ait répondu. Parce que voilà, par l'épistolaire, on arrivait à se dire des choses qu'on n'arrivait pas à se dire pendant nos veillées. Et je me souviens d'images assez fortes aussi où c'était l'été. Et des fois, elle devait fouiller dans des tiroirs, par exemple, pour faire le petit déjeuner du matin. Et moi, je regardais sa nuque parce qu'elle avait ses cheveux courts avec sa coupe de lesbienne des années 2000. Et c'était une trop belle nuque. J'étais tellement troublée, ouais. Où ta chaleur corporelle, elle change, tu sens que tu bouillonnes Et je sais pas, tout était long chez elle et très fin. Il y avait une grâce dans ses mouvements pour chercher les chocs à pic le matin, que j'aimais beaucoup. Sa nuque, les oreilles, les petits cheveux qui montent un peu sur les oreilles. Ça, je m'en souviens. Les avant-bras. J'aime beaucoup les avant-bras. Et voilà. Enfin, après, je crois que avant même qu'il se passe quelque chose, on se l'est dit. Et c'est bizarre de formuler un truc de « je crois que je t'aime beaucoup » avant, tu sais, de genre s'embrasser. Et c'est bizarre, dans ma tête, ça s'est passé dans ce sens-là. Il y a un truc très adolescent, presque, dans la manière vraiment timide de, je sais pas, voir grandir, en fait, ses sentiments et son émotion. Et après, écrire... Et après, se le dire. Et après, passer à quelque chose de plus physique. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, ce trouble et en fait, cette progression du sentiment, mais que tu laisses traîner sur des semaines et des semaines. Et en fait, comme on se voyait vraiment pratiquement tous les jours, et juste à deux, en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Et je crois que je n'ai jamais eu ça par la suite dans mes... autres histoires.
Avec Audrey, disons qu'on s'est rencontrés via l'intermédiaire de Tinder. Et moi, c'était à une époque où, franchement, j'avais envie d'embrasser n'importe qui. Voilà. Et elle avait un pull rose. Et moi, j'avais mon débardeur préféré, qui est noir et avec des taches de délavé, tu sais, à la Javel, là, que tu peux faire toi-même, de do it yourself. Voilà. Et c'est mon débardeur préféré. Je l'adore. Je l'adore. Par contre, je suis obligée de mettre un soutif en dessous parce qu'il est hyper échancré. Et donc, on verrait mes nichons jaillir si je ne mettais pas de brassière. Ben, on s'est retrouvés... c'était au bord de l'eau, au bord de l'Erdre, à Nantes. On s'était donné rendez-vous là. C'était l'été. Et on a bu des bières et papoté. Et à un moment donné, je l'ai embrassé, ouais. C'est moi qui l'ai embrassé. Elle a tourné la tête, boum, je l'ai embrassé. Voilà. Enfin, bon, elle est venue vers moi aussi. Enfin, ça a été réciproque. Mais c'est quand même moi qui ai déclenché ce premier truc. Parce que, comme je te disais, j'avais vraiment besoin de rapport charnel. Donc, j'avais pas envie d'attendre 1000 ans, en fait. Et puis, je la trouvais hyper belle dès le début. Donc voilà, mais Tinder, ça crée un biais. Et après, donc, après qu'on se soit embrassé, enfin, que je l'ai embrassé, elle m'a fait des bisous dans le cou. Et là, je me suis dit, l'affaire est dans le sac. Elle a répondu par des bisous dans le cou.
Alors, ça s'est passé dans une petite ville de Suisse, au pied du Jura. Le moment marquant, ça a été un vernissage d'exposition où on s'est fait en fait enfermer en dehors de la galerie avec plein de gens. C'était un peu une ambiance festive. Et là, Jeanne me demande ce que je fais après et elle me dit, en fait, elle me laisse pas le choix. Elle me dit juste, ah, tu viens en after avec nous? Il y a Michou qui vient nous chercher en voiture, c'est dans 5 minutes, on y va. Et après, elle me pousse dans la voiture, et il y a le chien de Michou qui vient sur moi, et je suis entre deux personnes, et on s'en va dans la campagne, et j'ai aucune idée de où on va, et c'est hyper excitant, c'est trop bien. Et après, on arrive dans une ferme avec un garage de Volvo et des tracteurs et plein de gens, enfin, ouais, des gens que je connais pas. Et une baignoire avec un feu dessous, donc on va se baigner pendant que les colocs, enfin, celles qui étaient avec nous dans la voiture, font une jam dans une autre pièce. Et nous, on se baigne dehors dans cette baignoire. Et en fait, le feu sous la baignoire est tellement chaud que ça nous fait un peu friser les poils du cul. Du coup, on sort. Et après, en fait, Jeanne me propose de dormir chez elle. Et moi, j'étais super... Enfin, Ouais, je me suis vraiment laissée embarquer comme ça.
Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie, et bonjour ma toute belle, ma mignardise, bonjour mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce colombelle, mon passereau, ma de colombelle. Ah non, celle-là. Mon passereau.
C'est une rencontre, du coup, avec, avec une magnifique femme, très très grande. On était à une soirée un peu spéciale dans l'Est parisien, un truc un peu confidentiel, etc., qui s'appelle La Sirène, avec que des vieux beaux. Voilà, donc on était les deux plus jeunes de la soirée, donc très tôt, très vite, on s'est parlé. Au bout de 5 minutes, elle me dit je suis lesbienne et célibataire. Moi, je me dis ok, message reçu 5 sur 5, quoi, pas de problème, ma grande, j'ai bien compris le message. Tatati, on fait notre soirée, on danse à un moment donné ensemble, etc. Et puis, elle squattait chez une copine qui habitait dans le 8e, près des Champs-Élysées. Et moi, j'habitais dans le 16e. Et elle rentrait en bagnole. Donc, du coup, j'en profite parce qu'on était dans le 20e. Donc, je me dis, et puis il était 2 heures passées, donc il n'y avait plus de métro. Donc, je me dis, je vais essayer de squatter le convoi. Je demande à donc, la copine de Vara. Ok, ok, pas de souci, il y a une place pour moi dans la bagnole et tout ça, je négocie ça bien. On sort pour aller à la voiture et la Vara m'attrape la main, me colle au mur et me roule une galoche dantesque. Je me dis super, l'affaire est dans le sac. Tatati, on fait le chemin, etc. En se faisant des papouilles derrière, puisqu'on était derrière. D'ailleurs, j'avais mon fut déchiré et tout. Enfin bon, bref, ça a un peu servi aussi, quoi. Bref. Et elles habitaient dans le 8e, donc dans les beaux quartiers, mais à l'étage des chambres de bonne. Donc, ce qui fait que Vara, elle avait sa petite chambre, et il n'y avait que sa petite chambre. Après, les Wawa étaient sur le palier, la cuisine, c'était une autre pièce, et la chambre de l'autre copine qui hébergeait Vara, c'était une autre pièce. Enfin, bon, bref, on s'en fout, c'est un détail, mais du coup, on monte dans sa chambre et tout ça, tatati, on est bien chaude, truc mûche, on commence à se déshabiller et tout, et c'était l'hiver, donc moi, j'avais des grosses, grosses grolles qui nécessitait toute mon attention pour que je les délasse. Donc à un moment donné, je me tourne, je délasse mes chaussures. Donc là, j'ai pas Vara dans mon champ de vision à ce moment-là, je la vois pas. Je délasse mes godasses et je me retourne. Et là, en fait, Vara a une bite et bande comme un taureau en me regardant comme ça. Et je sens que du coup, elle se questionne en fait parce qu'elle m'a pas prévenue. Pour moi, c'était une femme lesbienne. Donc à aucun moment donné, j'ai percuté qu'en réalité, c'était une femme trans. À aucun moment donné, j'ai percuté ça. J'ai percuté que quand j'ai vu son sexe. Et elle me regarde comme ça, un peu dans l'expectative. Elle attendait ma réaction. Et moi, j'ai une fraction de seconde de « Oh merde, fais chier, c'est pas un abricot ». Je l'ai, cette fraction de seconde-là, mais une fraction de seconde. Et en fait, je me retiens de lui en parler. Et je me dis « Bon, tant pis, de toute façon, elle me plaît, elle est cool, elle sent bon, je la trouve belle, peu importe. » Voilà. Et ouais, et j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'Almodovar, quoi. Vraiment, c'est le film d'Almodovar, quoi, auquel j'ai été biberonnée quand j'étais gamine, et il y en a plein, quoi, dans Tout sur ma mère et compagnie. Il y a aussi des super beaux personnages de femmes trans dans ces films-là. Et vraiment, j'ai flotté sur un nuage pendant 2 semaines à la façon Almodovar, quoi. C'était chouette. Je dirais, bon, encore une fois, je veux blesser personne, mais je pourrais résumer ça comme la puissance, quand même. Il y avait une certaine puissance physique avec une douceur féminine, quelque chose de cet ordre-là.
Alors, c'était il y a quelques mois. J'allais rendre visite à une copine dans une ville où j'habitais pas. Enfin, c'était une autre ville. Et je vais chez cette amie et en fait, elle vient me chercher en bas de son immeuble. Et elle m'avait déjà parlé de ses colocs. Et du coup, j'étais très contente de rencontrer ses colocs et elle me disait que
il y avait sa coloc et son coloc là-bas. Et donc, je m'attendais à rencontrer ces gens-là. Donc, on monte les escaliers. On discute et tout ça. Puis, elle ouvre la porte et là, je vois sa coloc. Et elle était assise à une table dans un coin de la pièce. Et en fait, l'ouverture de la porte donnait directement sur elle. Et elle avait les cheveux courts, un peu en iroquoise, les yeux verts. Voilà. Et ben, et je tombe amoureuse d'elle directement, quoi. Et du coup, après toute la soirée, c'était très compliqué de me concentrer sur les conversations. Et je voyais bien que j'étais complètement chamboulée et je pouvais pas m'arrêter de la regarder tout le temps. Et à un moment, on était en face et j'essayais d'être complètement normale et d'avoir une conversation normale avec ma copine, ma pote qui était à côté. Et elle me racontait des choses de son travail. Elle parlait et en fait, elle nous parlait à toutes les deux. Et en fait, toutes les deux, on était en train de pas du tout l'écouter et de se regarder. Et du coup, elle l'a remarqué, elle a arrêté de parler et elle est partie. Elle me disait qu'elle voulait venir à Nantes et qu'elle ne connaissait pas cette ville. Et moi, je lui disais, viens quand tu veux. Et voilà, et on a continué à discuter ensemble. Et puis, elle est allée se coucher à un moment. Ça s'est fini comme ça. Et du coup, après, j'ai passé quelques jours à ne pas pouvoir faire autre chose que penser à elle. Et je ne savais pas trop comment faire, si je lui écrivais un petit mot que je laissais dans sa chambre ou pas. Et finalement, j'ai pris son numéro et quelques mois plus tard, je l'ai recontacté. Du coup, j'ai envoyé un message et je lui ai dit que je passais à Toulouse et que j'avais bien envie de la voir. Et du coup, on s'est vus et puis dans un bar, puis dans la ville, en fait, elle me faisait un peu visiter la ville. On se baladait et du coup, après, on a été chez elle dans sa maison. Je suis rentrée chez elle et on s'est embrassés et voilà quoi.
Après, aujourd'hui, toutes les histoires, toutes les chansons d'amour presque me font penser à elle. Donc, voilà. Moi j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi j'ai envie d'être en vie, de parler encore plus fort. Et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord. Enfin, le contexte, c'est le club de foot, un contexte, on va dire, un peu traditionnel de l'homosexualité, notamment en Île-de-France, enfin partout, j'imagine que c'est pareil. Mais en tout cas, moi, je joue au foot depuis que j'ai 15 ans, donc c'est là où j'ai découvert, où j'ai vu d'abord des personnes homosexuelles. Et en fait, il y a plusieurs équipes donc, dans ce club, et j'ai remarqué un jour une fille très grande, assez fine, et qui avait l'air vraiment, qui était assez timide, que je voyais en fait seulement passer de temps en temps. Donc comme ça, de fil en aiguille, il est arrivé qu'on se croise un petit peu, mais disons que je me disais, waouh, qui est cette fille assez, assez discrète, alors même qu'elle n'était pas discrète physiquement, dans le sens où elle était grande, elle avait une grande chevelure, très épais. Donc c'était un match, donc le rituel du foot, chaque équipe fait son match et on se retrouve toutes dans un même bar après le match. Et je la vois assise sur les genoux d'une autre fille que je connais un peu, qui est une amie, et je me dis « Ah mais comment j'y ai pas pensé avant ?» En fait, c'est évident qu'elles sont ensemble, elles sont tout le temps ensemble. C'est la logique. Et dans ma tête, en fait, c'est là où je me dis « merde !» Et je me dis « Pourquoi tu te dis merde, en fait ?» C'est bizarre, t'avais pas pensé à ça avant. La soirée se décante un peu, et vers minuit, je sais pas, ce premier bar ferme, et du coup, avec un plus petit groupe des gens avec qui on était, on décide d'aller dans un autre endroit. On y va, et là, je me retrouve donc à la table de cette fille, qui s'appelle Sam, donc. Et là, je chante... Enfin, voilà, je l'avais vue quelques fois, Mais là, d'y avoir accès, on va dire, de commencer un peu, on va dire, à discuter avec elle. Enfin, discuter, c'est un grand mot parce que je pense qu'on n'arrivait pas trop à faire des vraies phrases, mais en tout cas à participer à une même conversation ensemble. C'était déjà un peu, il était en train de m'arriver un peu un début de petit truc. La soirée dure. Ah oui, ce dont je me souviens de ce moment-là, c'est qu'on était sur une petite table, on était peut-être, je ne sais pas, 6-7. Et moi, je me souviens que nos genoux, nos pieds, enfin, sous la table, que ça se touchait. D'ailleurs, longtemps après, on en a reparlé. Et je lui dis, mais moi, à ce moment-là, j'ai pris ça comme un signe clair, alors qu'elle me disait, mais sans doute jamais c'est arrivé, ou moi j'en ai aucun souvenir, donc comme si c'était... Enfin, tu vois, quand t'as la jambe qui croise celle de quelqu'un d'autre sous la table, tu sais jamais si c'est juste par erreur, ou s'il y a un vrai truc, ou pas. Enfin, en tout cas, dans ma tête, pour moi, à ce moment-là, c'était un signe. Là, il est peut-être 2h du matin, j'étais déjà en train d'imaginer... j'étais en train de tomber croque, quoi, de ressentir quelque chose. Et du coup, on se retrouve à continuer cette soirée et ça devient un peu... on est un peu bourré, ça jouait du saxo dans l'appartement, et il commence à être tard et à 3h30 du matin, je ne sais pas pourquoi, moi, j'avais en fait une fête et en fait, à une demi-heure de Paris, à Vitry, loin, et j'avais complètement oublié d'y aller, en fait. J'avais un peu planté mes potes qui étaient là-bas, et à ce moment-là, à 3h30 du matin, je me dis, en fait, c'est le moment, il faut que j'y aille. Du coup, je me dis, propose, quoi, dis-le. Donc, je propose. Et là, il y a deux filles, dont Sam, qui disent, pourquoi pas, on va à cette fête. Donc, on arrive, on trouve des gens qui sortent du festival, qui lui donnent, du coup, qui leur donnent des bracelets, qui les enlèvent et qui leur filent pour qu'elles puissent entrer. Je commençais déjà à ne plus maîtriser, à me dire, oulala, je ne sais pas du tout où je vais. Je sais que j'en ai envie. Enfin, moi, c'était conscient à ce moment-là, mais la fille, je la voyais quand même assez... je me disais, ouais, elle est super réservée. Je ne savais même pas si, potentiellement, elle était vraiment intéressée par les filles ou pas. On n'avait pas du tout eu ce niveau-là d'échange. Donc, j'avais aucune info, en fait, sur elle. Donc, pour moi, c'était un mystère. Et c'était vraiment juste... Elle m'émerveillait, en fait. C'était un petit soleil. Et donc, après, les choses naturellement se passent. On écoute de la musique, il y avait un énorme concert, on commence à danser ensemble. Voilà, la magie opère. Et là, on s'embrasse. Je suis complètement... je ne m'attendais pas du tout, en fait, justement, à ce que ça se passe si vite. Et si naturellement, mais c'est de 4h à 8h du matin, il y avait vraiment... on a fait la fête avec plein de gens, etc. Mais il n'y avait plus personne autour de nous. C'était fou, quoi. On était ensemble, on était trop bien alors qu'on se connaissait pas, donc c'était drôle parce que il y avait ce truc un peu au début de gêne, de en fait on sait même pas à la limite de quoi se parler, et puis en plus j'en ai un souvenir un peu forcément trouble parce que j'ai pas tous les éléments, j'ai surtout des éléments visuels, je dirais. Ensuite de fil en aiguille, donc il est 8h du mat, le festival ferme, et on se dit, on va faire une petite sieste. Et en fait, on est sorti du festival et on est allé 200 mètres plus loin, s'allonger dans l'herbe. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir 13 ans et demi. Endormi là, peut-être jusqu'à midi. On s'est réveillé. Enfin, parfois, il y a des gens qui passaient au-dessus de nous. Ça nous réveillait un peu. Mais on était genre le bord d'une route sur une pelouse. Mais en fait, le moment, il était tellement magique qu'il n'y avait rien pour nous de bizarre à dormir allongé dans l'herbe au bord d'une route à 30 minutes de Paris. Et on se réveille vers midi, donc un peu déboussolé. On ne sait plus trop où on habite, qui on est. Ça ne pouvait pas s'arrêter là, qu'on avait envie de continuer à passer du temps ensemble, même si le temps de ce week-end il était quand même assez restreint. Voilà, on a commencé à être dimanche, c'était midi. On part dans une longue marche. En fait, on a dû marcher peut-être 45 minutes pour trouver une bouche de métro. Puis, on a pris toute la ligne 7. Et je me souviens qu'on arrive dans le centre de Paris... pendant peut-être 4 heures dans le cœur de Paris, autour, presque parfois sans se dire grand-chose. Et en plus, hyper timide, on n'osait plus, comme la veille, se toucher. Justement, on était redevenus hyper timides. Sans doute que l'effet de l'alcool nous avait un peu désinhibé la veille, mais là, on était juste à se regarder un peu béate. Et donc, on a marché des heures durant. Et moi, limite, parfois, pour combler un peu, je lui faisais un peu la visite, je lui racontais. Qu'elle n'avait pas osé me dire, en fait, qu'elle connaissait, parce qu'elle était tellement... Elle, ça lui allait, en fait, de refaire cette visite. Alors que, je voulais grave faire la fille qui connaissait Paris, alors qu'en fait, elle connaissait sans doute l'endroit beaucoup mieux que moi. On a marché, marché, marché. Finalement, elle m'a raccompagnée dans mon quartier. style à 20h le soir. Et la petite histoire raconte qu'à à ce moment-là, en fait, elle mourait d'envie d'aller faire pipi et qu'elle n'a pas osé me demander si elle pouvait aller faire pipi chez moi parce qu'elle avait peur que ce soit trop engageant à ce moment-là de me demander d'entrer chez moi ou que j'aurais considéré ça comme un signe. Et du coup, qu'elle a dû faire, elle, tout le retour dans le 15e à l'Oudo de Paris pour rentrer chez elle avec une envie de pisser horrible. Et j'ai eu ces 24 heures dans la tête pendant vraiment très longtemps à me ressasser genre la magie de chacun de tous ces petits instants qui se sont passés, le moment où on s'est embrassé en écoutant la musique là sous ce grand tipi avec au milieu d'une foule d'inconnus. Puis un jour on s'est revus, on s'est retrouvés, j'ai quitté ma copine, on est resté plus de 4 ans ensemble.
Ça va?
Encore, c'est trop bien.
Ouais.
T'as entendu?
Salut.
C'est pas vrai.
Non.
Oui.
Si.
Possible.
Arrête.
On va danser.
Bonne idée.
Donc, on était à une soirée, il y avait Mao que j'avais rencontré il y a pas si longtemps, donc ça fait il y a 5 mois et qui me parle d'une Margot en me disant mais c'est sûr, vous ça va matcher. Vous êtes pareil, vous êtes cute, donc c'est assez mignon. Et qui, bourré à 5h du matin, non, plutôt le lendemain matin, appelle sa cousine et décide de me mettre en FaceTime et de m'écrire sur le dos le prénom de Margot, que je ne connaissais pas. Donc ça commence comme ça. Et donc j'ai gardé le prénom de Margot pendant 2 jours parce que je l'ai oublié. Et donc peut-être que ça a infusé comme ça dans mon corps, je ne sais pas.
Et moi, j'ai reçu une photo du dos du lien. Donc, c'est la première chose que j'ai vue avec mon prénom inscrit sur son dos.
Et donc, ce qui se passe, c'est que quelques jours après, on partait à Marseille. Moi, j'allais avec Camille, donc une amie en commun avec Mao. Et j'y allais pour aller voir une fille. Et je sais que Margot y était. Mao faisait pas mal de blagues sur le fait que de toute façon, ça allait se faire avec Margot, ou de toute façon à 3 peut-être. Enfin bon, il y a plein de suppositions. Et du coup, on débarque et je rencontre Margot.
Ouais. Tu arrives dans une soirée où j'étais déjà. Et du coup, moi, je l'avais identifiée comme étant Julia. Et on était assez nombreuses, donc elle ne pouvait pas savoir qui j'étais. Et du coup, Mao a orchestré un petit tour des prénoms. Et du coup, je savais que c'était pour que Julia m'identifie. Donc voilà. Et
la soirée se passe. Donc c'était pendant le Covid. Donc on va dans un bar clandestin à Marseille. Mao, donc, qui a quand même toujours son petit plan en tête, décide de changer les règles du baby-foot et à chaque fois qu'on marque, il fallait s'embrasser. Donc bien sûr, ça tombe sur Margot et moi. Donc du coup, il y a eu des premiers bisous, d'échanges qui étaient hyper anodins parce que... Mais bon, ils étaient quand même là. Moi, je sais qu'elle m'avait fait quand même pas mal marrer. Et du coup, 20 minutes plus tôt, et j'étais quand même vachement intriguée par Margot. Mais voilà, bon, j'étais quand même là pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai quand même fini avec ce quelqu'un d'autre ce soir-là. Mais comme c'était de toute façon la première fois que j'ai rencontré Margot, il n'y avait pas...
Et moi, j'étais contente quand on marquait des buts au baby-foot. Comme ça, on se faisait un petit bisou. Et pendant cette soirée, ouais, on s'est échangé quand même quelques regards complices. Et ouais, tu m'intriguais pas mal.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a eu que cette soirée, parce qu'ensuite, Margot a dû partir en catastrophe le lendemain matin. Et moi, je l'ai revue qu'une semaine plus tard, et en débarquant chez Mao, chez qui j'allais vivre pendant 3-4 jours. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand j'ai vu qu'elle était là, j'étais hyper contente quand même, alors que je t'avais vu croiser quoi à cette soirée. Et donc la soirée se passe, moi de toute façon, je suis charmée de plus en plus. Et ouais, il y en a eu plusieurs, une ou deux, je sais pas, peut-être plus. Et arrive la soirée.
Et oui, c'est vrai que ces deux premières soirées à Paris, ouais, on a pas mal discuté. Et moi, j'étais hyper curieuse de connaître davantage Julia parce que j'étais un peu sensible à son charme. Et du coup, la troisième soirée, en fait, on a passé toute la soirée ensemble à créer des cocktails. Et on était un peu indécollables.
Ouais, disons que c'était la belle excuse, le cocktail. Donc à chaque fois, on inventait un nouvel ingrédient pour pouvoir se le montrer. Et puis voilà, on les a appelés les cocktails du Gounistan, bien sûr.
Et je me souviens que quand t'étais arrivée à cette soirée, je m'étais retournée parce que j'étais dos à la porte. Et j'avais vu Julia ouvrir la porte et en fait il pleuvait vachement dehors. Et t'avais ta petite doudoune jaune et t'étais couverte d'eau, enfin trempée. Et là je me suis dit que je te trouvais vraiment mignonne et que tu me plaisais beaucoup.
Je pense que le charme opère pendant cette soirée. Et, anecdote marrante, je sais pas s'il faut le raconter, mais il se trouve qu'en fait, cette fille-là que j'avais rencontrée à Marseille allait aussi dans les Cévennes où on devait aller en vacances. Donc, il y avait aussi Margot. Et sauf que moi, j'étais plus ou moins engagée dans cette histoire. Mais sauf que voilà, j'ai quand même Margot. Enfin, ce soir-là, en tout cas, j'étais là. Mais il faut absolument que je l'embrasse. C'est pas possible. Et du coup, j'étais allée voir Mao et j'avais dit, mais est-ce qu'elles se croisent? Donc, hyper... pas terrible quand même comme question avec le recul. Et... elle m'avait dit non. Et c'est vrai que, voilà, ni une ni deux, je pense que je suis allée voir Margot et je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser.
Et j'ai dit oui.
Et c'est simple, on s'est embrassés, puis on a fait que ça, quoi, pendant on en était indécollables.
Ouais.
Et tu m'as dit que j'avais la langue douce et que nos langues étaient faites pour matcher. Ouais. Ça, c'était mignon.
Ouais, et puis et c'est vrai que cette nuit était hyper belle.
Ouais.
On a passé la nuit à s'embrasser. Et moi, j'ai su, je crois, à ce moment-là, que j'allais tomber amoureuse d'elle. Et ça s'est produit.
Le dernier truc qu'on a fait avant que je parte, que je vienne ici, c'est qu'on voulait s'acheter des sextoys et entre autres un strap-on, donc un dildo avec une ceinture. Et en fait, c'est les deux quelque chose qu'on n'a encore jamais expérimenté, mais qu'on s'est dit assez vite qu'on avait un peu envie. Et du coup, en partant en voyage, je lui ai laissé dans ma boîte aux lettres pour qu'elle puisse aller le chercher, mon womanizer le livre Jouissance Club, et genre une immense pêche vraiment très grosse, qu'on dirait vraiment une grosse paire de fesses, et une petite carte. Ouais, c'était mon cadeau de au revoir. Voilà. J'espère qu'elle a mangé la pêche et que ça lui a fait plaisir.